Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir. J'ai un petit sondage à faire. Qui ne veut pas voir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau? Je vais aussi baisser la main. Bien sûr, nous voulons tous voir, nous voudrions tous voir notre nom écrit dans ce livre. Quel genre de question est-ce là? Si nous voyons notre nom dans ce livre, cela signifie que nous avons réussi. Ce serait très, très excitant. Je serais aussi heureux que vous tous. Cela signifie que ce mode de vie a porté ses fruits. Frères et sœurs, j'irais même jusqu'à dire que je serais heureux de voir mon nom écrit dans la Bible. Ne serait-ce qu'en donnant un indice, un soupçon ou un indice que j'ai réussi, je serais certainement très, très excité. Passez au chapitre 14 d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 14. J'ai pris soin d'insister sur le mot pas lorsque j'ai posé cette question pour commencer, au cas où vous penseriez que j'essaie de vous piéger. Ézéchiel 14, nous allons lire ici plusieurs versets qui donnent à réfléchir. Ézéchiel 14, reprenons au verset 14. En fait, au verset 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils d'homme, quand le pays péchera contre moi en commettant une infidélité grave, j'étendrai ma main sur lui, je briserai son bâton de pain, j'enverrai sur lui la famine, et j'en exterminerai les hommes et les bêtes. Imaginez des hommes, des animaux qui meurent parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Même si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, s'y trouvaient, ils ne sauveraient que leurs propres âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Continuons à lire. Si je fais passer des bêtes dans le pays, et qu'elles le ravagent, et qu'il soit dévasté, aucun homme ne pourra y passer à cause des bêtes. Ce sont donc des attaques d'animaux que nous lisons ici. Quand ces trois hommes y seraient, je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, ils ne délivreront ni fils ni fille. Eux seuls seront délivrés, mais le pays sera dévasté. Si je fais venir l'épée sur ce pays et que je dise, épée, traverse le pays, et j'en extermine les hommes et les bêtes. Il s'agit là de scènes très horribles. Encore une fois, quand bien même ces trois hommes y seraient, je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, ils ne délivreront ni fils ni fille, mais eux seuls seront délivrés. Si j'envoie la peste dans ce pays et que je répande sur lui ma fureur dans le sang pour en exterminer les hommes et les bêtes, Noé, Daniel et Job n'en sortiront ni fils ni fille, même s'ils s'y trouvaient, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils ne délivreront que leurs propres âmes dans leur justice. Nous avons donc vu plusieurs références à ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, juxtaposées à la punition et à la colère de Dieu, à la fureur de Dieu, mais il est clair que ces hommes s'en sont sortis. Pourquoi le dire autrement? Pourquoi l'expliquer autrement? Peu importe comment. Je veux dire, les choses vont mal, et peu importe ce que les gens font, combien ils peuvent souffrir, combien ils peuvent regretter toutes leurs actions, à moins qu'ils ne soient comme ces hommes, Noé, Daniel et Job, ils ne s'en sortiront tout simplement pas. Réfléchissez-y. Pourquoi Dieu énumère-t-il leur nom de cette manière? Pourquoi Dieu énumère-t-il leur nom? Si j'étais Noé, Daniel et Job, et que, d'une manière ou d'une autre, je pouvais voir mon nom listé de cette façon, je serais excité. Je me sens mal pour toutes les autres choses que Dieu disait, mais je serais excité, vous savez quoi? J'ai réussi. Mon nom est écrit ici, dans le contexte, j'ai réussi. C'est une bonne chose. Pourquoi Dieu énumérerait-il leur nom? Pourquoi ne pas se contenter de dire que vous seriez juste, puis d'expliquer la punition et de donner une comparaison? Pourquoi énumérer spécifiquement ces noms de cette façon? Il est évident que Dieu voulait que nous ayons une norme. Il voulait nous donner quelque chose à comparer ou quelque chose à quoi comparer. C'est comme un test décisif. Frères et sœurs, si nous le prenons, c'est une occasion pour nous de voir comment nous nous débrouillons. De voir où nous en sommes. Nous avons des individus spécifiques, Noé, Daniel, Job. La Bible en dit long sur ces trois hommes, mais nous avons des exemples spécifiques auxquels nous pouvons comparer nos vies et voir où nous en sommes. Où en sommes-nous en ce qui nous concerne? Comment nos vies se comparent-elles à celles de ces hommes? Voici un point encourageant. Frères et sœurs, si nous suivons leurs exemples, nous pouvons y arriver aussi. Si nous faisons ce que ces hommes ont fait, si nous nous comportons comme eux, nous pouvons y arriver aussi. En d'autres termes, lorsque nous voyons leurs noms énumérés dans ce contexte, dans le contexte d'Ézéchiel 14, lorsque nous voyons leurs noms, nous pouvons voir notre nom si nous nous conduisons comme ces hommes l'ont fait. Pourquoi les énumérer sinon? Pourquoi être aussi précis? Pourquoi nommer ces personnes si ce n'est pour nous donner un exemple? Frères et sœurs, j'ai décidé de choisir l'un de ces trois hommes pour l'étudier et ce sera le sujet de mon sermon. J'ai décidé d'en choisir un, devinez lequel. J'ai décidé de choisir Noé. Désolé pour les fans de Daniel et de Job. J'ai décidé de choisir Noé. Noé était un serviteur unique. Frères, nous allons apprendre de sa vie. Apprenons de la vie de Noé. J'ai choisi Noé pour de nombreuses raisons, mais en voici une. Allons au chapitre 17 de Luc. Pourquoi choisir Noé? Pourquoi maintenant? Luc 17, reprenez le au verset 26. Luc 17, 26. Comme je le dis souvent, la vie est une question de temps. Luc 17, nous reprenons au verset 26, et comme il arriva du temps de Noé, l'orthographe est un peu bizarre, mais c'est Noé, comme il arriva du temps de Noé, il en sera de même du temps du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où le déluge vint et les détruisit tous. Il en est de la même manière, qu'au jour de l'eau. Ils mangeaient et buvaient, ils apportaient et vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Nous avons donc une image de notre époque moderne. Nous avons une image de ce que sont les choses aujourd'hui, de ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Frères et sœurs, un événement de niveau inondation est en train de se produire sur cette planète. Un événement de niveau inondation est en train de se produire sur cette planète. Si vous connaissez l'histoire, un autre déluge ne se produira pas, car Dieu a promis de ne pas le faire, mais un autre déluge, un événement qui a été comparé à une planète recouverte d'eau, quelque chose de si grand, quelque chose de si bouleversant, quelque chose qui dépasse l'imagination, est en train de se produire. C'est juste au coin de la rue. Frères et sœurs, regardez autour de vous, le monde est en ruine. Le monde s'effondre. Il ne s'améliore pas. Les gens veulent qu'il aille mieux, je veux qu'il aille mieux. Les experts, les pontifes, tous veulent que cela aille mieux, mais le monde ne va pas mieux. Quand la destruction viendra, pas si, quand la destruction viendra, mes frères, je veux être à l'intérieur de l'arche proverbiale, pas à l'extérieur en train de marcher sur l'eau. Je sais nager, mais je ne sais pas nager aussi bien, aussi bien. Comme Noé, je veux être protégé. Dieu nous donne l'exemple. Il utilise cet exemple à dessein. Quelque chose d'horrible se prépare, mes frères, et nous, comme Noé, avons la possibilité d'être en sécurité. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Noé pour attirer notre attention, pour nous faire entrer dans l'ère moderne. pour nous secouer, pour nous aider à comprendre ce qui est en jeu. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai choisi Noé. Allons dans l'Ancien Testament, au chapitre 5 de la Genèse. Quelqu'un sait-il ce que signifie le nom Noé? Quelqu'un sait-il ce que signifie le nom Noé? Vous avez des idées? Cela ne veut pas dire eau, arche, inondation, rien de tout cela. Que signifie le nom Noé? Genèse, chapitre 5, verset 29. Genèse, chapitre 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé. Son père lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de notre travail et du labeur de nos mains, à cause du sol que l'Éternel a maudit. » Le nom de Noé signifie réconfort ou repos. Nous commençons déjà à avoir une idée de son but et de ce qu'il a fait ici sur terre, mais son nom signifie réconforter. Frères et sœurs, en parcourant cette liste de choses que nous allons apprendre de Noé, elle est destinée à nous réconforter tous, à nous aider, à nous mettre à l'aise en ce qui concerne les choses qui nous attendent. Ce n'est pas une coïncidence si Dieu a donné à cet homme le nom de réconfort. Alors commençons. Commençons. La première chose que nous allons apprendre de Noé, c'est comment être juste. Comment être juste. Deuxième Pierre, chapitre 2, revenons au Nouveau Testament. Certains seront peut-être surpris d'apprendre que nous sommes allés dans le Nouveau Testament pour lire l'histoire de Noé. Nous allons à nouveau dans le Nouveau Testament pour parler de Noé. Il peut sembler étrange de lire dans le Nouveau Testament un homme dont la vie a été décrite dans l'Ancien Testament. Malheureusement, nombreux sont ceux qui rejettent l'Ancien Testament en pensant qu'il n'a pas d'importance, que ce n'est pas un livre qui compte. C'est un livre dépassé. Je suis un chrétien du Nouveau Testament, comme ils le disent, et ils le font à leur propre détriment. Mais c'est encore un autre exemple. Si vous rejetez l'Ancien Testament, vous n'avez pas de contexte pour ce que nous allons lire. Deuxième Pierre, chapitre 2, nous reprenons au verset 4. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 4. Car Dieu n'a pas épargné les anges pécheurs, mais il les a précipités dans la géhenne et les a jetés dans les chaînes des ténèbres pour les réserver au jugement. Il n'a pas épargné le monde ancien, mais il a sauvé Noé, le huitième, prédicateur de la justice, en faisant venir le déluge sur le monde des impies. Nous voyons donc ici que Noé a été appelé à prêcher la justice. Noé était-il hypocrite? Était-il hypocrite? Était-il une personne qui disait une chose et en faisait une autre? Allons au chapitre 7 de la Genèse. On lui a donné ce titre, cette étiquette de prédicateur de la justice. En tant que prédicateur, il annonçait les choses de Dieu. Il y avait lui prédicateur de la justice, comme nous le lisons. Il était le huitième. Mais était-il hypocrite? Se contentait-il de prêcher la justice? Genèse chapitre 7, verset 1. Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car c'est toi que j'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Il est donc évident que Noé n'était pas seulement un prédicateur de la justice. Il était un homme de justice. Sa conduite correspondait à ses paroles. Frères et sœurs, nous tous, nous ne pouvons pas nous contenter de belles paroles. Nous devons passer à l'action. Si nous disons une chose, si nous parlons des choses de Dieu, si nous prétendons être un peuple de Dieu, si nous prenons le nom de Dieu, si nous nous appelons chrétiens, si nous disons ces choses, il est évident que nos actions, toutes nos actions, y compris les miennes, toutes nos actions doivent correspondre à ce que nous disons. Nous devons vivre le livre, tout comme Noé l'a fait. C'était selon Dieu, Dieu était le témoin. Le christianisme, Nous l'avons tous entendu. Le christianisme est un verbe, ce n'est pas seulement un nom d'être chrétien. C'est un verbe. Il s'agit d'une action. Genèse chapitre 6, restez ici dans la Genèse. Genèse 6, verset 5. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur n'étaient que du mal, continuellement. Nous avons ici une idée, une description du monde dans lequel Noé vivait. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur en fut attristé. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, tant les hommes que les bêtes, les reptiles et les oiseaux de l'air, car je me suis repenti de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait dans ses générations, et Noé marchait avec Dieu. Juste signifie juste. Nous avons donc vu plus haut qu'il était juste, donc encore une fois, il était considéré comme juste. C'est une chose. Maintenant, il fait cela, il est considéré comme juste dans un monde où Dieu a dit que les pensées de l'homme n'étaient que du mal continuellement, toute imagination. Alors oui, les gens faisaient des choses, mais ils pensaient aussi à de mauvaises choses. Dans cet environnement, cet homme, Noé, a pu conserver sa justice. Il a pu continuer à être appelé juste par Dieu. Dieu appelle cet homme juste. C'est une chose de maintenir sa justice pour que je maintienne ma justice quand je suis avec un groupe de personnes qui sont justes. C'est une chose de faire cela. C'est une bonne chose. Vous ne voulez pas être le mauvais élève, sortir du lot. C'est une chose de maintenir notre droiture lorsque nous sommes entourés de droiture. C'est autre chose de maintenir cette droiture lorsque nous sommes entourés de méchanceté, ou que nous sommes entourés d'injustice, c'est un autre niveau. C'est différent. Frères et sœurs, maintenons nous tous nos normes, les normes de Dieu, et notre intégrité, quel que soit notre entourage. Maintenons-nous cette droiture, et non pas cette autosatisfaction, parmi ceux qui ne connaissent peut-être pas la voie de Dieu. Non pas l'autosatisfaction, mais maintenons-nous notre justice, la justice de Dieu, lorsque nous sommes entourés de ceux qui sont injustes. Bien sûr, vous connaissez la réponse à cette question. Dieu connaît la réponse. La justice est de la plus haute importance, mes frères. Elle est liée à la foi. C'est un fruit de l'Esprit de Dieu, qui est un fruit de l'Esprit de Dieu. Allons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, 7. C'est le chapitre de la foi, par la foi, étant averti, Noé étant averti par Dieu de choses qui n'ont pas encore été vues. C'est cela la foi, se conduire et faire des choses sans les avoir vues se réaliser ou se produire, ému de crainte, Noé craignit Dieu. Il prépara une arche pour sauver sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui est par la foi. Nous voyons donc ce lien, cette combinaison de la foi et de la justice. Les deux sont réunis. Frères et sœurs, sans la foi, et par extension, sans la justice, il est impossible de plaire à Dieu. Nous connaissons le verset. Impossible de plaire à Dieu? Impossible. C'est ce qu'il dit. Sans la foi, sans la justice qui y est attachée, il nous est impossible de plaire à Dieu. Vous pourriez vous demander, la justice est une norme tellement élevée. Je ne suis pas à la hauteur. C'est une norme si élevée. Comment puis-je maintenir ma justice? Je veux que Dieu soit satisfait de moi. Je veux que Dieu m'aime. Je veux qu'il soit heureux. Comment puis-je maintenir un niveau aussi élevé? Passez au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 3. La justice est si noble, c'est un tel défi, surtout de nos jours, mais en tout temps. Romains, chapitre 3, verset 4. Romains, chapitre 3, verset 4. Dieu nous en préserve, que Dieu soit vrai, et que tout homme soit menteur, comme il est écrit, afin que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu puisses vaincre quand tu seras juge. Mais si notre iniquité justifie la justice de Dieu, que disons-nous? Dieu est-il injuste quand il se venge? Dieu nous en préserve, car alors comment Dieu jugera-t-il le monde? Frères et sœurs, nous vivons dans un monde entouré d'injustices. Même en tant que chrétiens, comment pouvons-nous maintenir cette justice, cet objectif élevé? Dieu dit, il n'y a pas de juste. Non, pas un seul. Qu'est-ce qui nous rend différents? Comment pouvons-nous être différents? Restons ici dans Romains, allons au chapitre 4. Romains, chapitre 4. L'explication est très simple, encore plus simple que vous ne le pensez, que nous ne le pensons. Romains, chapitre 4, verset 3, que dit l'Écriture? Abraham a cru Dieu, vous savez ce que signifie croire quelqu'un, il dit quelque chose et vous le croyez, vous pensez que ce qu'il dit est vrai. Je dis que cela va arriver et vous croyez que cela va arriver. Vous n'en doutez pas. Il a cru Dieu, et cela lui a été compté à juste titre. Ok. Donc, le moyen pour nous, comme Abraham, comme Noé, nous en parlerons plus en détail, mais le moyen pour ces hommes et pour nous tous d'être considérés comme justes, c'est simplement de croire Dieu. Cela ne semble pas aussi difficile que la droiture, qui peut donner l'impression que je dois être parfait. Je ne peux jamais rien faire de mal. Je ne peux jamais faire d'erreur. Ce n'est pas le lien avec la justice. Ce n'est pas le lien que Dieu a fait avec la justice. Verset 20 ici au chapitre 4. Abraham n'a pas été ébranlé par l'incrédulité devant la promesse de Dieu, mais il a été ferme dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé. Je viens de parler du fait de ne pas douter, d'être pleinement persuadé. Vous savez, quand vous êtes pleinement persuadé de quelque chose, il n'y a pas de doute. Vous savez que cela va arriver. Pleinement persuadé. Il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Ainsi, cet homme, Abraham, a non seulement cru Dieu, mais il savait ce que Dieu avait dit, il savait que Dieu était capable de faire ce qu'il avait dit. Il faut les deux. C'est pourquoi cela lui a été imputé à titre de justice. Nous voyons donc une fois de plus, frères, comment Abraham, comment Noé, comment nous tous pouvons être considérés comme justes. Il nous suffit de croire Dieu. Nous devons simplement être pleinement convaincus que ce qu'il dit qu'il va faire, il va le faire, et qu'il est, bien sûr, capable de le faire. Noé n'a pas bronché devant les instructions de Dieu quand il lui a dit de construire l'arche, qu'il allait pleuvoir. Il n'a pas bronché. Il était pleinement convaincu. C'est ce qui l'a rendu juste. Frères et sœurs, c'est ce qui nous rend justes. Nous sommes considérés comme justes parce que nous croyons en Dieu et que nous faisons ce qu'il dit. Nous observons le sabbat. Dieu dit, observez le sabbat. Eh bien, nous le croyons et nous le respectons. Cela nous aide. Cela contribue à nous rendre justes. Nous payons la dîme sur 10% de nos revenus. C'est Dieu qui nous dit de le faire. Nous croyons que si nous le faisons, Dieu nous bénira. Cela nous est compté comme une justice. Dieu dit, Ne mangez pas de côtelettes de porc. Ne mange pas de cocktail de crevettes. Ce n'est pas pour vous. Nous ne le faisons pas. Cela nous est compté comme une justice. Dieu dit, ne forniquez pas. Les hommes et les femmes doivent être mariés avant de fonder une famille. Eh bien, mes frères, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous croyons Dieu et que cela nous est compté à juste titre. Dieu dit que lui et Christ viennent avec un royaume. Nous le croyons. Nous savons que cela va arriver. C'est ce qui fait de nous des justes. Nous sommes pleinement convaincus. Qui ici n'est pas pleinement persuadé que Jésus-Christ vivant va revenir sur cette terre et y instaurer un royaume? Nous savons tous que cela va se produire. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons ce que nous poursuivons. C'est pourquoi nous sommes tous ici. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous sommes considérés comme justes. Nous prenons simplement Dieu au mot. Dieu a toujours des justes, des représentants sur terre. J'irais même jusqu'à dire que la justice de Noé, lui qui était un homme, considéré comme juste parmi des milliards de personnes sur la terre, il ne pouvait pas mourir. Dieu a dû faire le ménage, provoquer un déluge et mettre son plan à exécution pendant que Noé était en vie. Dieu a toujours un représentant sur terre. Frères et sœurs, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Soyez encouragés par cela. Tant que nous sommes ici, tant que nous faisons ce que nous sommes censés faire, le plan de Dieu est en vigueur. Dieu ne pouvait pas laisser Noé se faire renverser par un bus. Je ne sais pas s'il y avait des bus à l'époque, peut-être qu'il a été renversé par un éléphant ou quelque chose comme cela. Il fallait qu'il provoque un déluge, qu'il fasse le ménage. Il devait faire avancer son plan pendant que Noé, un homme juste, était encore en vie. C'est la première chose. C'est la première chose que nous apprenons de Noé, comment être juste. Ensuite, c'est comment avoir un contact avec Dieu. La deuxième chose que nous pouvons apprendre de Noé, c'est comment entrer en contact avec Dieu. Allez dans la Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Commencez au verset 1. Genèse, chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et qu'il leur naquit des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils leur prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. L'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car il est aussi chair. Mais ses jours seront de 120 ans. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Après cela, les fils des hommes, plutôt les fils de Dieu, vinrent vers les filles des hommes, et elles leur donnèrent des enfants. Ils devinrent des hommes puissants, qui étaient autrefois des hommes de renom. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur n'étaient que malice continuelle. Nous lisons à nouveau, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, tant les hommes que les bêtes, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. Nous avons vu à plusieurs reprises que Dieu a dit, à qui parle-t-il? À qui Dieu parle-t-il? Et le Seigneur a dit, est-ce qu'il se parle à lui-même? Est-ce qu'il parle aux anges peut-être? Il parle peut-être aux anciens, aux 24 anciens. Il parle peut-être au porte-parole, Jésus-Christ avant qu'il ne soit Christ. À qui s'adresse-t-il? Eh bien, quel que soit son interlocuteur, c'est quelqu'un qui a un contact direct avec Dieu, quelqu'un avec qui il est en contact, quelqu'un qui est capable d'entendre les choses qu'il dit. Dieu n'est pas un être fermé. Il n'est pas un être quelque part dans un coin qui ne veut pas être dérangé. Dieu veut avoir une relation avec les choses qu'il a créées. Dieu est ouvert. Il donne sa pensée, il donne son avis sur les choses. Il explique ce qu'il veut faire. Restez ici au verset ou au chapitre 6, lisons au verset 9. Voici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait dans sa génération. Noé marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils. La terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue, car toute chair s'était corrompue sur la terre. Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence par leur faute. Et voici, je les détruirai avec la terre. » Nous voyons maintenant que Dieu s'adresse directement à un homme. Il s'adresse directement à Noé. Il n'y a aucun doute. Il parle directement à un homme, à la chair. Nous avons lu cela pour la dernière fois dans le jardin, lorsque Dieu parlait à Adam, se souvenant de la fraîcheur du jour, et tout cela. Dieu s'adresse directement à l'homme. Restez ici dans la Genèse. Lisons le premier verset du chapitre 7. L'Éternel dit à Noé. Nous le voyons encore une fois. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car c'est toi que j'ai vu juste devant moi dans cette génération. Dieu veut un contact direct avec l'humanité. C'est extraordinaire. Dieu veut, désire, avoir un contact avec l'humanité, les mottes de terre, les vers, je crois qu'il en est question dans le Job. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur, veut parler avec l'humanité. Dieu nous parle, mes frères. Il le fait. Bien sûr, il le fait. 2 Timothée, chapitre 3. 2e chapitre de Timothée. Bien sûr, Dieu nous parle. 2 Timothée, chapitre 3. Verset 3. 2 Timothée, chapitre 3. Excusez-moi, allons au verset 15. 2 Timothée 3, 15. Et que, dès votre enfance, vous connaissiez les saintes Écritures, nous parlons de la Bible, qui peuvent vous rendre sages à salut par la foi qui est dans Christ Jésus. Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Les Écritures sont issues de la pensée de Dieu. Oui. Il a pu utiliser des hommes pour écrire ses pensées. Il a peut-être veillé à ce que ses pensées soient enregistrées et à ce qu'elles traversent l'histoire, mais c'est Dieu qui a inspiré ce livre. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous parle. C'est ainsi que nous devons le voir. Nous devons voir ce livre, ses Écritures. Nous devons considérer que c'est Dieu qui nous parle. Sinon, ce n'est qu'un livre sur une étagère que nous n'ouvrirons pas. Il restera là, ou peut-être que nous le parcourrons ici et là. Mais lorsque nous le voyons comme ce que Dieu nous parle à travers ce livre, alors nous commençons à comprendre, « Attendez une minute, je peux parler à Dieu quand je veux. Dieu me parle à tout moment. Ses paroles sont toujours à ma disposition. » Lorsque nous comprenons que ce livre est un livre de Dieu qui nous parle, nous comprenons que Dieu nous parle en ce moment même. Frères et sœurs, que cela change votre étude de la Bible. Que cela change la façon dont vous regardez les Écritures lorsque vous lisez la Bible. Ce sont les paroles de Dieu qui nous parlent de notre situation ou peut-être de quelque chose que nous cherchons ou qui nous préoccupe. Nous voulons savoir ce que dit l'Écriture. Mais Dieu ne veut pas parler tout seul. Il ne veut pas faire toute la conversation. Il veut que nous lui parlions aussi. Jean 17. Jean 17. Comment cela s'appelle? Jean 17. Rappelez-vous, nous apprenons comment Noé nous a appris à avoir un contact avec Dieu. Jean 17. J'ai choisi ceci parce que je pense que cela le dit bien. Jean 17. Jésus prononça ces paroles, leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, et ton Fils aussi te glorifiera. Et le reste du chapitre est une prière, Christ parlant au Père, ayant une conversation et un échange avec le Père. Frères et sœurs, la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. C'est l'occasion d'ouvrir nos cœurs et de porter nos âmes et de dire ce que nous avons à l'esprit. La prière nous permet de le faire. Rappelez-vous que Dieu n'est pas un être fermé, quelque part dans un coin, qui ne veut pas être dérangé. C'est un être qui veut entendre parler de nous. Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, Dieu veut entendre son peuple. Dieu veut entendre ce que nous avons tous à dire. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous voulons avoir la bonne attitude lorsque nous parlons à Dieu, nous voulons avoir la bonne approche, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Dieu veut nous entendre, et si je peux vous confier un secret, il sait déjà ce que nous voulons de toute façon. Il veut nous entendre lui dire, lui demander. Dieu veut avoir une relation avec nous. Il est notre Père, mais il veut plus que cela. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23, et l'Écriture s'accomplit, qui dit, Abraham crut à Dieu. Nous avons lu cela tout à l'heure, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. Dieu veut être notre ami. Nous savons ce qu'est un ami. Dieu ne veut pas seulement être notre Dieu. Il ne veut pas seulement être notre Père. Il veut être notre ami. Il veut que nous soyons ses amis, c'est ce qu'il veut. Jean 15. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas ce Dieu, ils ne savent pas qui est ce Dieu. Ce Dieu veut être mon ami. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Christ qui parle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Désormais, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle pas serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait le Seigneur, mais je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Dieu et Christ veulent une amitié avec nous, frères. Il a eu une amitié avec Abraham. Il a sans doute eu une amitié avec Noé. Dieu veut avoir une amitié avec nous. Il veut une relation d'amitié avec nous. Bien sûr, il est Dieu. Bien sûr, il est notre Père. Bien sûr, nous devons le vénérer et le révérer en tant que Dieu, mais il veut être notre ami. Cela vous semble-t-il être un monstre? Les gens pensent que Dieu est un monstre. Cela vous semble-t-il un monstre? Je veux être votre ami. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas ce que Dieu est. Ce n'est pas la façon dont Dieu veut que nous le voyions. Il ne veut pas que nous le voyions de cette façon. Il ne veut pas que nous le considérions comme quelqu'un que l'on ne peut pas approcher. Il ne veut pas que nous le considérions comme quelqu'un dont nous ne voulons pas entendre parler. Non, nous voulons l'entendre. C'est le livre sur vos genoux. Il veut nous entendre. C'est nous à genoux. C'est nous, tout au long de la journée, qui lui parlons. Dieu sera toujours là pour vous, mes frères. Il sera toujours là pour vous. Serons-nous là pour lui? C'est une autre question. La prochaine chose que Noé nous a montrée, c'est comment être efficace. Comment être efficace? Genèse, chapitre 6. Nous allons parcourir plusieurs fois ces versets. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Nous retournons donc au chapitre 6 de la Genèse. Nous pouvons apprendre de Noé comment être efficace. Genèse, chapitre 6. Nous n'avons pas besoin de le parcourir en entier, mais nous voyons qu'à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, Dieu donne à Noé des instructions spécifiques pour la construction de l'arche. Il parle en 14 de la fabrication d'une arche en bois de gopher, des chambres et de la mise en place de l'arche. C'est ce qui empêche le bateau de fuir. Il ne faut pas que de l'eau pénètre à l'intérieur. Cela va à l'encontre du but recherché. C'était donc la mode, et je lui ai dit comment s'y prendre. Il a parlé de la longueur de la robe en 15 et il a même parlé d'y mettre une fenêtre. On en reparlera plus tard dans l'histoire. Mais Dieu a donné à Noé des instructions très précises. Descendez au verset 19. Pour tout ce qui est vivant, pour toute la chair, il reçoit encore des instructions. Tu feras entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce. Il lui dit donc ce qu'il doit faire des animaux une fois qu'il les a apportés. Puis, au verset 21, il dit, et vous prendrez tout ce qui se mange. La responsabilité de Noé était donc de rassembler toute la nourriture. Donc oui, Dieu a apporté les animaux sur place, et Noé n'a pas parcouru le monde pour trouver tous ces animaux, c'est Dieu qui les a apportés. Mais sa responsabilité était de rassembler la nourriture. C'est la nourriture qui allait maintenir ces animaux en vie. Le verset ou le chapitre 7, à partir du verset 1, continue, donne plus d'instructions, parle de la façon de séparer les animaux purs, les animaux qui seraient sacrifiés, de ceux qui étaient impurs. Pendant 7 jours, verset 4, car dans 7 jours, je ferai pleuvoir. Il explique donc à Noé ce qu'il va faire. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé suit donc le mouvement. Il suit les instructions comme il se doit. Noé est entré dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et il a, bien sûr, divisé les animaux comme il était censé le faire. Au verset 10, on peut lire, 7 jours après, les eaux du déluge étaient sur la terre. Le deuxième mois de la vie de Noé, le 17e jour du mois, le jour où toutes les sources de l'abîme se brisèrent et où les fenêtres des cieux s'ouvrirent. Nous voyons, mes frères, que Noé a effectué le travail. Dieu lui a donné des instructions spécifiques, probablement beaucoup plus détaillées que ce que nous lisons ici, mais Noé a suivi les instructions et a effectué le travail. Il s'agit d'un homme de 600 ans. Je comprends. Ils vivent plus longtemps, mais c'est un homme de 600 ans qui a réussi. Il a suivi les instructions de Dieu. Il a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il est intéressant de noter que nous commençons à entendre parler de Noé à l'âge de 500 ans, lorsqu'il a eu ses fils. Qui sait donc à quoi ressemblait sa vie auparavant, mais il est clair qu'elle le préparait à ce qui allait arriver. Frères et sœurs, Noé était un homme très capable. Pensez-y. Nous pensons souvent, d'accord, Dieu a joué un rôle extraordinaire dans tout cela. Mais Noé était clairement un homme capable. Il pouvait suivre des instructions. Dieu n'avait pas besoin de se répéter. Du moins, ce n'est pas ce qu'il a écrit. Il était capable de prendre des notes. Je ne sais pas s'il s'est souvenu de tout, s'il l'a écrit. Il devait être très organisé pour pouvoir exécuter un tel plan. C'était un énorme projet de construction. Imaginez la collecte de toute la nourriture, appréciez l'histoire, la collecte de toute la nourriture qu'il faudrait pour se nourrir, pour nourrir ses animaux, pour nourrir sa famille. Il comptait sur lui. Il devait être un homme très compétent. Il devait avoir une bonne éthique de travail. Il ne pouvait pas être un paresseux, un fainéant. Dieu lui a donné 120 ans. Dieu, est-ce que je peux avoir encore 120 ans? Non. Il n'a pas chômé. Il était bien équilibré. Il pouvait travailler avec des animaux. Il pouvait clairement travailler avec les gens. Nous n'y pensons pas toujours lorsque nous lisons l'histoire. Il pouvait travailler sous pression. Dieu lui dit, je détruis la terre. Construis une arche. Cela va arriver. Il était capable de bien travailler sous une forte pression et dans des conditions difficiles. Les gens pouvaient manifestement compter sur lui. Frères et sœurs, j'insiste là-dessus, frères, parce que nous pouvons en tirer des leçons. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons en tirer des leçons. Parfois, le monde nous rejette à cause de nos croyances. Il pense que nous sommes des fous. Vous êtes des fous. Vous pensez qu'un Dieu va revenir et sauver la situation, ou que vous ne mangez pas ceci, ou que vous ne mangez pas cela, ou que vous ne fêtez pas les anniversaires, ou que vous ne fêtez pas Noël, vous êtes des cinglés. Souvent, frères, à cause de nos idées bizarres dans leur esprit, nous pouvons être rejetés, nous pouvons être écartés, nous pouvons être considérés comme incapables, bizarres, bizarres. Nous ne voulons pas faire quoi que ce soit qui puisse leur donner des idées, mes frères. Nous voulons nous assurer que nous faisons le contraire d'être des fous. Nous voulons être sûrs que nous menons notre vie comme il faut, que nous sommes responsables, que les gens peuvent compter sur nous, que nous sommes organisés, que nous ne sommes pas des paresseux. Dieu doit pouvoir nous donner un projet sur lequel travailler, et nous effectuons le travail. Proverbe, chapitre 19, Proverbe, chapitre 19. C'est une citation, je crois que M. Pack l'a dite, et elle vient peut-être de M. Armstrong, mais elle dit, le but dans la vie est de devenir une personne plus efficace. Combien se souviennent avoir entendu cela? Le but de la vie est de devenir une personne plus efficace. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas efficaces, que faisons-nous? Dieu ne peut pas nous utiliser de la même manière, si nous ne faisons que prendre, 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 et que Dieu ne peut pas nous utiliser pour donner et nous utiliser de manière à édifier et à aider les autres, à quoi servons-nous? Nous ne faisons que prendre de la place. Proverbe chapitre 19, Proverbe 19. Il s'agit de suivre les instructions. Proverbe 19, 20. Écoutez, conseillez et recevez des instructions, afin que vous soyez sages jusqu'à la fin. Lorsque j'ai été ordonné, ma femme et moi, nous nous sommes assis. C'était agréable, mais on nous a fait asseoir et on nous a expliqué beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on nous a dite et que je n'oublierai jamais, c'est de veiller à suivre les instructions telles qu'elles sont données. Suivre les instructions telles qu'elles sont données. Cela m'a toujours marqué. Ne vous contentez pas de suivre les instructions. Suivez les instructions telles qu'elles ont été données. Parfois, on nous dit de faire des choses et nous allons les faire à notre manière. Oh, j'accomplis tout ce que vous m'avez dit de faire. Non, il faut suivre les instructions telles qu'elles ont été données. Il arrive que l'on nous dise d'accomplir telle ou telle chose et de faire ce que vous avez à faire, mais le plus souvent, on nous dit de faire quelque chose et de le faire d'une manière spécifique. Nous devons nous assurer, frères, pour être plus efficaces, que nous suivons les instructions telles qu'elles sont données. Si nous ne sommes pas sûrs de ce qu'il faut faire, nous n'avons qu'à demander, mais improviser peut être source de confusion. Cela peut causer des problèmes. Les dirigeants, ceux qui sont en charge des choses, doivent penser à beaucoup de choses différentes. Ils sont responsables d'un grand nombre de choses, et souvent, plus souvent qu'autrement, il vous donne des instructions pour une raison précise, et l'on attend de vous que vous fassiez ce que l'on vous a demandé de faire. Je ne suis pas différent. Je me souviens, alors que je suis sur le point d'être ordonné, que je n'ai jamais oublié cela. Je le partage avec vous tous. Les instructions sont importantes. Et si Noé l'avait fait à sa façon ? Ok, toutes ces instructions que tu m'as données sont bien gentilles, Dieu, mais je vais le faire à ma façon, j'ai compris. Comment cela se serait-il passé ? Pas très bien. Pas très bien. 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, nous parlons d'être une personne plus efficace. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. 1 Corinthiens 14, 40. Que tout soit fait avec soin et avec ordre. Frères et sœurs, toutes choses. Physiquement, nous devrions mener une vie décente et ordonnée, et non pas chaotique. Mentalement, nous devrions penser de manière décente et ordonnée. Nous devons nous efforcer d'avoir une bonne présentation générale, mes frères. Nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons échouer, mais notre objectif global, notre perspective, quand les gens pensent à nous, ils devraient nous voir le plus souvent comme des gens décents et ordonnés, pas en désordre, pas dans le désordre. Encore une fois, imaginez que Noé ait adopté cette approche. Et s'il était une personne dont la vie n'était que chaos? Je pense que c'est ce qui se passait autour de lui. C'est pourquoi le monde était tel qu'il était. Proverbe 13. Revenons au proverbe. Proverbe 13. J'ai mentionné que Noé avait une bonne éthique de travail, une excellente éthique de travail. Proverbe 13, chapitre 4. Proverbe 13. Chapitre 4, l'âme du paresseux est celle qui désire et n'a rien, mais l'âme du diligent sera engraissée et prospère. Une personne diligente est une personne qui prospère. C'est la personne qui surmonte. Une personne qui travaille dur, quand elle a envie d'abandonner, continue ou fait une pause, puis se remet à l'ouvrage. On n'abandonne pas. On ne le fait pas mollement. Nous en avons entendu parler un peu plus tôt, avec le vol à l'étalage. Nous nous en occupons. Noé l'a fait. Frères et sœurs, nous devons nous acharner si nous voulons être efficaces, et je sais que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Nous devons être capables de travailler sous pression. Restons ici dans Proverbe 3 et allons à Proverbe 3. Nous devons travailler sous pression. Nous sommes tous confrontés à la pression de différentes manières. Vous avez entendu dire que la pression fait éclater les tuyaux. Nous gérons tous la pression de différentes manières, mais voici la clé. Voici la clé, Proverbe, chapitre 3, verset 5. Voici comment faire face à la pression. Verset 5. Confiez-vous à l'Éternel, non pas à vous-même, non pas à nous-mêmes, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera votre marche. Pendant plus de 100 ans, alors que Noé recevait ses instructions et construisait l'arche, il a dû se dire à plusieurs reprises, « Vous savez, je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout cela. » Vais-je pouvoir arriver à temps? Vais-je pouvoir effectuer mon travail? Vais-je pouvoir m'en sortir? De tous les habitants de la planète, c'est à moi que Dieu s'adresse. C'est à moi que Dieu s'adresse. Ma famille me regarde. Et, qu'ils le sachent ou non, les animaux me regardent. Vais-je pouvoir y arriver? Frères et sœurs, il ne s'est pas appuyé sur sa propre compréhension. Il a reconnu Dieu dans toutes ses voies. Comment le sais-je? C'était un homme juste. Il croyait en Dieu. Il n'a pas regardé à lui-même. C'est la même chose pour nous, la même chose pour nous. Quand nous sommes sous pression, quand le stress est là, et qu'il est difficile de continuer à travailler, ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez Dieu. Il promet de diriger nos chemins. Il doit le faire. C'est une promesse. Il doit le faire. Nous ne pouvons pas nous effondrer dans les moments difficiles. Lorsque les choses sont difficiles, nous ne pouvons pas nous effondrer et rester impuissants. Nous ne pouvons pas être comme cela. Quand les choses deviennent difficiles, qu'arrive-t-il au plus fort? Il se lance. L'adversité permet à chacun de se découvrir. Si vous vous demandez, quelle est ma force? Comment vous sentez-vous dans l'adversité? Lorsque l'adversité frappe, il peut s'agir de n'importe quoi, d'un problème financier, personnel ou de santé. Noé nous a montré comment être plus efficace. Il nous a aussi montré comment être un bon exemple pour nos familles. Revenons à la Genèse. Revenons au chapitre 4 de la Genèse. Genèse, chapitre 4. Nous avions déjà vu que la population de la terre avait explosé. Il y avait beaucoup de monde. Lisons quelque chose ici dans le chapitre 4 de la Genèse. Le monde de Noé ressemblait beaucoup plus à notre monde que nous ne le pensons. Genèse, chapitre 4. Tout d'abord, il y avait beaucoup de monde, donc c'est comme s'il y avait beaucoup de monde à l'époque, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus de gens aujourd'hui qu'à l'époque, mais il y a beaucoup de gens. Mais le chapitre 4 de la Genèse, nous allons le lire au verset 19. Genèse, chapitre 4, verset 19. Lamech prit deux femmes, dont l'une s'appelait Ada et l'autre Zila, et Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes. Il fabriquait donc des tentes à ce moment-là. Il construisait des lieux de vie. Il n'y avait pas d'habitants des cavernes, comme c'est souvent le cas lorsque l'on regarde en arrière et que l'on se dit, « Oh, ces gens-là vivaient dans des cavernes. » Non, ils vivaient dans des tentes. Il y a aussi des tentes aujourd'hui. Et ceux qui ont du bétail. D'accord, donc c'est un éleveur de bétail, vous savez, peut-être qu'il vend du bétail, qu'il le garde et qu'il mange des steaks. Le nom de son frère, verset 21, était Jubal. Il était le père de tous ceux qui, comme Hendel, maniaient la harpe et l'orgue. On écrivait donc de la musique à cette époque. Il fabriquait des instruments. Pensez à tout ce que cela implique. Il fallait qu'il y ait de la musique. Il fallait quelqu'un pour fabriquer les instruments. Il fallait que quelqu'un joue cette musique. Cette musique était-elle jouée dans une salle de spectacle? Les gens payaient-ils pour avoir l'occasion de voir quelqu'un jouer cette musique? Laissez-vous guider par ces questions. Zila a aussi enfanté Tubal-Caïn, un instructeur de tous les artisans de l'airain et du fer, et la sœur de Tubal-Caïn était Naama. Il travaillait aussi le fer et l'airain, et fabriquait des choses. Nous ne parlons pas ici de Néandertaliens, mes frères. Nous parlons d'une société sophistiquée, une société sophistiquée comme notre société moderne. Une société avec de la musique, de la littérature, de l'art et de la métallurgie, un monde avancé. Ce progrès s'est accompagné de la méchanceté. Lorsque vous apportez toutes ces choses supplémentaires, la méchanceté a tendance à apparaître. Les gens qui se suffisent à eux-mêmes n'ont pas l'impression d'avoir besoin de Dieu. Regardez autour de vous dans le monde d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais bien. Je me débrouille très bien, merci. Mais Noé était différent. Nous avons parlé de lui comme d'une personne compétente et capable. Malgré ses compétences et ses capacités, il n'a pas oublié qui il était et qui était Dieu dans sa vie. Rappelez-vous, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu malgré ses talents, malgré ses capacités. Frères et sœurs, Noé était une lumière dans un monde obscur. Allons à Matthieu, Matthieu chapitre 5. Noé était une lumière dans un monde de ténèbres. Bien sûr, je veux continuer à lier cela à nous tous. Matthieu, chapitre 5, verset 14, Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Notre but, le but de cette lumière est d'être vu par les hommes. Parfois, on se dit, d'accord, je me fiche que les gens me voient. Dans ce cas-ci, nous devons nous soucier que les gens nous voient. Dans ce contexte, notre but est d'être vu par les hommes, d'une manière très proéminente, dans une position très proéminente. Pourquoi? Pour qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres, qu'ils voient dans un monde sombre, que malgré le fait que nous soyons dans un monde sombre, nous nous conduisons toujours avec lumière. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, et surtout qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il doit y avoir un Dieu. Regardez ces gens. Il doit y avoir un Dieu. Regardez comment ils se conduisent. Regardez comment ils se comportent. Regardez comment ils ne succombent pas à la pression. Regardez comment ils se distinguent. Il doit y avoir un Dieu. Tout le monde fête Noël, sauf eux. Je sais qu'il y a des musulmans et d'autres personnes. Vous donnez votre argent à cette église? Quoi? L'inflation, le prix de l'essence? Frères et sœurs, nous sommes faits pour être vus. Dieu veut que nous soyons vus. Noé a eu un impact étonnant sur sa famille. Pensez-y. Il était celui qui était considéré comme juste, mais il avait trois fils. Il avait une femme, il avait trois fils, ses trois fils avaient des femmes. Elles sont montées dans l'arche elles aussi. Je comprends qu'il fallait préserver les races, mais est-ce que Dieu les contrôlait? Les a-t-il simplement fait monter dans l'arche? Rien ne l'indique. Non, ils ont vu la vie de Noé. Ils ont vu comment il se comportait. Ils ont vu qu'en tant qu'homme capable, il était prêt à construire cette arche. Il était prêt à faire ce que Dieu lui avait demandé, à aller à contre-courant. Vous savez, c'est facile d'aller dans le sens du grain. C'est agréable et lisse. Si vous avez déjà frotté votre main sur du bois, et si vous suivez le fil du bois, c'est très lisse. C'est très agréable. Il est difficile d'aller à contre-courant. Cela s'appelle une écharde. On ne veut pas d'écharde. Les échardes sont mauvaises. Mes frères, nous devons être prêts à aller à contre-courant. C'est la seule façon de nous démarquer. Si nous nous contentons d'aller de l'avant pour nous entendre, nous ne sortirons pas du lot. Nous ressemblerons à tous les autres. C'est lorsque nous allons dans la direction opposée, en dépit du vent dominant ou du courant. C'est lorsque nous allons dans le sens opposé que les gens se disent « Waouh, waouh, cette personne est différente. Il y a quelque chose de différent chez elle. Il y a quelque chose de différent dans cette famille. Il y a quelque chose de différent chez les personnes qui se trouvent dans l'espace de réunion de cet hôtel. Il y a quelque chose de différent chez les personnes qui sortent de cette maison. Ils portent des robes et des costumes, c'est samedi et il fait chaud dehors. Frères et sœurs, nous sommes censés être des lumières. Nous sommes censés nous distinguer d'une manière positive. C'est notre but. Matthieu 7. Restez ici dans Matthieu. Matthieu 7. Frères et sœurs, ne vous laissez pas décourager par le nombre de personnes qui mènent ce mode de vie en essayant de tout cœur et avec l'aide de Dieu d'être juste. Matthieu, chapitre 7. Ne vous laissez pas décourager par notre nombre, notre taille. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte droite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, parce qu'au verset 14, la porte est droite, étroite, très étroite. Étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il y a donc des gens larges et nombreux, et il y a des gens droits et étroits. Vous avez tous entendu cela, suivez le droit chemin. C'est de là que cela vient. C'est de là que cela vient. Le droit chemin. Peu nombreux sont ceux qui trouvent la vie. C'est ce qu'il explique. C'est ce qui nous explique. C'est ce qui explique Noé. Huit personnes, et c'est lui qui a été considéré comme juste. Le modèle de Dieu n'est pas brisé. Le travail de Dieu est d'appeler les gens. Notre tâche est d'être une lumière. Dieu fait sa part. Nous faisons la nôtre. Noé nous a également montré comment effectuer le travail. J'étais en train d'étudier et cela m'a surpris. Oh, il l'a fait, mais Noé nous a montré comment effectuer le travail. L'œuvre de Dieu à l'époque de Noé et l'œuvre de Noé sont très, très similaires. Par exemple, vous vous souviendrez que dans Jude, il est question d'Enoch, qui était un prédicateur de justice. Il a parlé de Dieu venant avec des dizaines de milliers de ses saints. C'est l'Évangile. C'est la venue du royaume de Dieu. Bien sûr, Noé a poursuivi dans cette voie. Bien sûr, Noé a parlé des mêmes choses. Le chapitre 6 de la Genèse, nous l'avons peut-être même couvert. Dieu a parlé de son esprit, qui n'habite pas toujours avec l'homme. Il allait détruire l'homme, mais Noé a trouvé la grâce. Cela ressemble à notre époque. Dieu va détruire l'homme, mais le peuple de Dieu, nous tous, avons trouvé la grâce. Dieu a révélé un jugement avant de le faire, avant d'amener le déluge. Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, un lieu de protection, un endroit où l'on peut se trouver en sécurité, où l'on peut être tenu à l'écart de toute destruction. Cela ressemble à l'Église de Dieu. Frères et sœurs, c'est un arc de protection que nous avons. Il est clair que nous devons être à l'intérieur de l'arche pour bénéficier de cette protection, et non pas à l'extérieur de l'arche en la regardant. Nous devons rester à l'intérieur de l'Église de Dieu pour être protégés des éléments, pour être protégés de toutes ces choses qui se passent dehors. Si nous choisissons de ne pas être à l'extérieur de l'arche, que nous le réalisions ou que nous le voulions ou que nous le pensions ou quoi que ce soit d'autre, nous nous exposons aux éléments et aux choses qui se passent à l'extérieur de l'arche. C'est une analogie très facile. C'est une chose très simple à assembler. Ce n'est pas compliqué. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. C'est un exemple lié à la prophétie. Nous parlons de l'époque de Noé comme étant similaire à la nôtre. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Nous nous concentrons sur la pensée que nous sommes parfois désobéissants, alors qu'autrefois la patience de Dieu. Nous parlons donc de Dieu qui souffre longtemps, c'est le fruit de l'Esprit. Attendu au jour de Noé, pendant que l'arche se préparait. Nous sommes en petit nombre, c'est-à-dire que 8 âmes ont été sauvées par l'eau. Dieu a exposé très tôt ce qu'il voulait faire. Il a parlé du fait que nous nous sommes repentis. Il se sentait mal d'avoir créé l'homme. Il voulait faire quelque chose de différent. Il a mis un plan en place, mais il a donné du temps. Il lui a donné 120 ans. Il n'était pas irréfléchi. Même s'il lui était difficile de voir ce qui se passait, il était patient. Dieu regarde ce monde aujourd'hui. Je suis sûr qu'il se repent, mais il est patient. Il donne à Noé, à sa famille, à tous les gens qui ont entendu le message, le temps de se ressaisir et d'arranger les choses. Dieu nous donne à tous du temps. Dieu a attendu. Et Noé? Qu'en est-il de Noé? Combien de temps a-t-il attendu? Amusons-nous un peu. Combien de temps pensez-vous que Noé restait dans l'arche? Combien de temps est-il resté dans l'arche? Si vous deviez poser la question, demandez-le-moi, environ 40 jours. Il a plus 40 jours et 40 nuits, mais combien de temps Noé est-il resté dans l'arche? Revenons au chapitre 7 de la Genèse. Combien de temps Noé a-t-il attendu? Genèse, chapitre 7. Nous allons le parcourir ici. Vous vous souviendrez que Noé est entré dans l'arche une semaine avant qu'il ne commence à pleuvoir. Il était donc déjà dans l'arche une semaine avant qu'une goutte ne tombe. C'est dans la Genèse 7:11. Il a plu 40 jours et 40 nuits, comme je l'ai dit. L'eau est restée sur la terre pendant 150 jours. Cela fait donc 5 mois qu'il est dans l'arche. Oui, il a plus 40 jours et 40 nuits, mais il est toujours dans l'arche. Nous sommes 5 mois plus tard. Mettez-vous à la place de Noé. Je suis content de ne pas m'être noyé, mais cette arche devient un peu confortable. J'y suis depuis 5 mois. Elle est restée sur le mont Ararat pendant 2 mois et demi. Mon Dieu, quand vais-je descendre de cette arche? Ces animaux ne sentent pas très bon. Ils ne coopèrent pas. Je devrais passer en revue le compte. Noé a envoyé le corbeau, je pense qu'il a attendu une semaine et a envoyé une colombe. Il a attendu une autre semaine, puis il a attendu encore 40 jours. Oh là là, il va encore pleuvoir. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que, dans l'ensemble, frère, Noé est resté dans l'arche pendant 1 an et 10 jours, 1 an et 10 jours. C'est une longue période. C'est long, très long. Auriez-vous attendu que Dieu intervienne? Finalement, Dieu a dit, « D'accord, ce n'est pas le corbeau qui est revenu, mais la colombe qui est revenue avec un rameau d'olivier. » Puis Dieu a dit, « Maintenant, tu peux quitter l'arche. » Donc, jusqu'à ce que Dieu dise qu'il pouvait quitter l'arche, il ne pouvait pas partir. Je veux dire, je suppose qu'ils auraient pu. Ils auraient pu essayer, mais Dieu a finalement dit qu'ils pouvaient quitter l'arche. Auriez-vous attendu? Aurais-je attendu? Surtout après que l'eau ait baissé. Ah, cela ne peut pas être si terrible. Frères et sœurs, imaginez que vous ne soyez pas dans un problème ou dans sa famille et qu'il n'ait pas pu attendre, qu'ils aient sauté de l'arche et qu'ils se soient jetés à l'eau. Vous avez fait tout ce chemin. Vous avez traversé le déluge. Vous avez survécu, vous avez réussi, mais vous ne pouviez pas attendre. Vous ne pouviez pas attendre. Ce serait une tragédie. Ce serait drôle, mais ce ne serait vraiment pas drôle. Ce serait triste. Ce serait une tragédie. Lamentation 3. Lamentation 3. Frères et sœurs, effectuez ce travail, être les lumières, montrer le chemin de Dieu dans un monde obscur, faire tout cela, bien sûr, c'est un défi. Bien sûr, c'est difficile. Mais il est important de faire tout cela, mes frères, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Lamentation 3:26. Lamentation 3:26. L'un de mes nouveaux versets préférés depuis que je l'ai découvert, depuis que je l'ai lu. Il est bon qu'un homme espère et attende tranquillement le salut du Seigneur. C'est un verset étonnant, étonnant, étonnant. Il est bon qu'un homme ait de l'espoir. Ne perdez pas espoir. Oui, les choses sont difficiles. Oui, les choses sont un défi. Oui, les choses semblent chaotiques. Oui, il semble que rien ne change. Ne perdez pas espoir. Mais non seulement ne perdez pas espoir, mais attendez tranquillement le salut du Seigneur. Je ne sais pas si c'était calme sur l'arche, mais ils ont attendu. Ils sont restés dessus. Ils sont restés. Ils n'ont pas quitté le navire. Ils ont attendu. Imaginez que Noé paniquait. Frères et sœurs, nous sommes si proches. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Même dans la mort. Même dans la mort, nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Parce que vous savez quoi? Quand vous vous réveillez, quelle sera votre prochaine pensée? Quelle est la prochaine chose que vous verrez? Le royaume. Beaucoup de nos frères qui luttent contre des problèmes de santé, des épreuves, je vous connais tous, nous voulons tous voir le retour de Jésus-Christ. C'est notre espoir. C'est ce que nous attendons tranquillement. Restez dans l'arche. Restez dans l'arche. Ne perdez pas patience. Nous avons la chance extraordinaire, comme Noé, d'avoir un pied dans le monde précédent et de voir le nouveau monde. Noé, et sa famille aussi, de façon unique, parmi toutes les personnes qui n'ont jamais vécu, ont pu voir comment c'était, c'est-à-dire d'un côté du déluge et de l'autre côté du déluge. Tous ceux qui sont nés après n'ont pu qu'entendre des histoires sur ce qui se passait avant. Mais lui a pu en faire l'expérience. Il a pu en être témoin, il a pu voir à quel point les choses allaient mal. Frères et sœurs, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la même situation où nous pouvons voir ce qu'il en est aujourd'hui. Bon sang, c'était mauvais, Paul. Je vous le dis, Pierre, ce n'était pas une blague. Tous les saints qui remontent loin dans le temps peuvent, d'une manière tout à fait unique, expliquer ce qu'il en était des deux côtés. C'est une chance extraordinaire. Nous avons l'occasion de voir le monde d'aujourd'hui et nous aurons, bien sûr, l'occasion de voir le nouveau monde très bientôt. Frères et sœurs, je peux dire beaucoup plus sur Noé, il a commis des erreurs, il n'était pas un homme parfait. Vous vous souviendrez qu'il s'est enivré, qu'il a laissé son. Je crois que c'était son neveu qui l'a violé. Et, bien sûr, il s'en est remis. Vous savez, vous vous souviendrez qu'il a réussi, mais il a commis des erreurs, mes frères, nous allons tous commettre des erreurs. Nous n'allons pas faire les choses parfaitement. Nous avons parlé de la justice et de ce qu'elle signifie. Mais Noé s'est remis de ses erreurs. Il ne s'est pas laissé abattre. Vous savez, toute cette partie où il est question de l'erreur qu'il a commise avec Cainan, en s'enivrant, et de ce que cela a entraîné, cela a été dit vers la fin de sa vie. Mais il s'est repenti, il a changé. Frères et sœurs, nous pouvons certainement faire la même chose. Nous concluons donc. Revenons à Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Je vais juste lire quelques versets, mais ils devraient vous parler différemment maintenant. Ézéchiel 14, 13. Fils d'homme, quand le pays m'offensera en commettant une faute, j'étendrai ma main sur lui. Je provoquerai la famine et je ferai périr les animaux dans l'homme, mais ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Noé était-il un homme parfait? Non. Mais nous lisons toutes les choses qu'il a faites pour figurer sur cette liste. Verset 20. Il est répété, Si Noé, Daniel et Job étaient en elle, je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, ils ne délivreraient ni fils ni fille, mais ils délivreraient leur propre âme par leur justice. Frères et sœurs, chaque baignoire doit reposer sur son propre fond. Chaque baignoire doit reposer sur son propre fond. Nous avons tous une responsabilité individuelle. Nous devons tirer les leçons de la vie de Noé. Relisez la Genèse de 5 à 9. Étudiez-les. Étudiez tous les cas où Noé est mentionné dans le Nouveau Testament et voyez comment tout se tient. Lisez ce qu'il en est dans le 2e Pierre, lisez ce qu'il en est dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons abordé certains de ces versets. Parcourez lentement sa vie dans la Genèse. Noé nous a enseigné comment être juste, comment vivre une vie juste. Nous comprenons tous que cela signifie simplement croire Dieu, le prendre au mot. Il nous a montré comment entrer en contact avec Dieu par la prière, par la lecture de sa parole. Il nous a appris à être plus efficaces, nous a donné de bons exemples de comportement au sein de nos familles et de la communauté. Bien sûr, il nous a appris à effectuer le travail. Il nous a montré comment effectuer le travail à l'époque et comment effectuer le travail aujourd'hui. Et, bien sûr, Noé a su rebondir lorsqu'il a commis des erreurs. Utilisez la vie de Noé, mes frères, tant bonne que mauvaise, pour vous diriger, pour diriger vos actions. Si Noé, Daniel et Job peuvent y arriver, vous le pouvez tous.